Chapitre 29. Lorsque Grace atteint le haut des marches, elle s'arrête un instant pour reprendre son souffle, puis, au lieu d'aller dans la maison, elle grimpe la colline, contourne l'atelier et se dirige vers le bois. La lumière du jour décline rapidement, les ombres se rassemblent et s'épaississent. Marguerite lui a appris une expression française pour ce moment si particulier, l'heure entre chien et loup, l'intervalle durant lequel une chose peut en sembler une autre. Une silhouette inoffensive peut paraître menaçante. Un ennemi peut prendre l'apparence d'un ami. Quand elle était toute petite, 3 ou 4 ans au plus, Grace s'est coincée la main droite dans une porte. Qui l'avait claqué? Le vent? Sa mère? Et la dernière phalange de son majeur a été coupée nette. On les a emmenés en urgence à l'hôpital, son bout de doigt et elle, pour qu'un chirurgien le lui recouse. Grace n'a presque aucun souvenir de cet épisode. On le lui a relaté plus tard. Probablement quand elle a voulu savoir pourquoi son majeur droit était un peu tordu et légèrement plus court que le gauche. Elle sait aussi qu'elle a dû passer une nuit à l'hôpital. Plus tard, elle se demandera pourquoi on avait tenu à la garder pour une blessure aussi bénigne. Et surtout, elle se rappelle une chose. Le lendemain matin, lorsque ses parents sont venus la chercher, elle a été submergée par une violente terreur. Elle a refusé de les suivre, s'est accrochée à l'infirmière et s'est mise à hurler. Car elle était certaine que ces gens n'étaient pas ses parents, que ses véritables parents l'avaient abandonnée, qu'ils ne voulaient plus d'elle et que des imposteurs avaient pris leur place. Des ennemis déguisés en amis, des loups déguisés en agneaux. Cette peur n'a pas duré longtemps, mais elle est revenue régulièrement par la suite. Il arrivait à Grace de se réveiller en sueur dans des draps glacés, certaine d'avoir été victime d'une erreur de l'univers. Elle n'était pas là où elle aurait dû être. Grace ne comprenait pas d'où lui venait cette impression. Son enfance n'avait été ni heureuse ni malheureuse. Ses parents n'étaient pas démonstratifs, mais ils n'étaient certainement pas maltraitants, ni même absents. Elle suppose qu'ils l'aimaient. Simplement, ils ne semblaient pas venir du même monde. Arrivée à l'adolescence, elle les considérait comme des étrangers, et vice-versa. S'il n'avait plus abordé le sujet avec elle par la suite, Grace était certaine que ses parents ne lui avaient jamais totalement pardonné ce scandale à l'hôpital. Pourquoi un enfant penserait-il une telle chose? Devait-il songer? Et on pouvait les comprendre. Oui, pourquoi? Pourquoi une fillette irait-elle s'imaginer que ses parents l'avaient abandonnée? Qu'est-ce qui n'allait pas chez elle? Depuis qu'elle est adulte et médecin, Grace repense régulièrement à cette question. Elle a lu les écrits des chercheurs en psychologie. Elle sait que les premières années de vie sont cruciales pour modeler les capacités d'attachement de l'enfant. Un nourrisson a besoin d'être entouré d'une présence constante et rassurante, un ou plusieurs adultes qui s'occupent de lui et se montrent attentifs et disponibles. Peut-être n'a-t-elle pas bénéficié d'une telle présence? Est-ce pour cela qu'elle ne ressent pas les choses de la même façon que les autres gens? Qu'elle voit parfois de l'affection là où il n'y a que de la politesse? Qu'elle est incapable de concevoir un toucher comme autre chose qu'une caresse ou une agression, car l'entre-deux lui est inconnu? Elle poursuit sa progression dans le bois. Ici, il est encore plus facile de s'inventer des silhouettes entre les troncs, des ombres qui, dans le crépuscule, se métamorphosent en bêtes sauvages, en hommes, en monstres, avant de se dissiper. Quelque part dans le cœur de la forêt, une chouette ulule. Soudain, Grace a la chair de poule. Son pouls s'accélère et le sang cogne à ses tempes et dans sa poitrine. Elle continue pourtant d'avancer dans le noir, jusqu'à la clairière où sont tombés les arbres lors des grandes tempêtes. Les bifurcations dans le chemin de Grace ont souvent été provoquées par un abandon, à commencer au fond par ce premier abandon imaginaire, quand elle a cru que ses parents n'étaient plus ses parents. Puis, il y a eu Nick et Audrey, et après ça Vanessa d'une certaine manière. Plus que quiconque, Vanessa a changé sa vie. La rencontrer a irrémédiablement transformé le cours de son existence. Vanessa était la réponse à une question que Grace se posait sans même le savoir. Après la mort de Vanessa, Grace a dû renvoyer les équipements et les médicaments qui avaient servi à soulager son amie dans les semaines qui avaient précédé la fin. Cependant, elle a pris des libertés dans ses comptes rendus pharmaceutiques et a pu conserver un unique flacon de morphine, caché au fond du tiroir de la coiffeuse de Vanessa. Le jour où l'ambulance est venue emporter le corps de Vanessa, Grace a regardé le véhicule repartir vers le continent par la fenêtre de la cuisine, dans un silence assourdissant. Appréhendant la tombée de la nuit, elle a prié pour que la marée monte plus vite, afin d'être à nouveau tranquille et en sécurité. Elle est allée se promener. Elle a traversé ce même bois, elle a marché jusqu'au rocher et a fait demi-tour. Ce soir-là aussi, elle a entendu la chouette. Le matin suivant, elle s'est dirigée vers la chambre de Vanessa, mais devant la porte fermée, elle a hésité. Elle s'est rendue compte qu'elle ne voulait pas mourir avant d'avoir nagé une dernière fois dans la mer. Elle voulait connaître encore le choc du froid, la douleur, puis le soulagement de son corps. Elle voulait le goût du sel sur ses lèvres, la sensation de ses orteils s'enfouissant dans le sable. Elle voulait mettre la tête sous l'eau pour écouter le rugissement des brisants. Une dernière fois. Alors, elle a récupéré son maillot de bain accroché à la patère de la salle de bain et elle est descendue sur la plage. Le lendemain, elle s'est de nouveau postée devant cette porte. Elle n'est pas entrée. Ce jour-là, elle a fait une balade sur la plage. Le suivant, elle s'est rendue au sommet du rocher. Elle a continué comme ça, trouvant chaque jour une petite chose à faire, une occupation, une raison de résister à l'appel du flacon au fond du tiroir. Quelques semaines plus tard, la gérante de son ancien cabinet médical de Carrarane lui a téléphoné, catastrophée. Un des deux généralistes avait quitté son poste sans prévenir et l'autre était débordé. Accepterait-elle de revenir travailler, ne serait-ce qu'à temps partiel? Ainsi, un nouveau chapitre a débuté. Vanessa n'était plus là, mais d'autres gens avaient encore besoin de Grace. La fiole de morphine est restée au fond du tiroir. Quand elle quitte le bois, il fait noir. Grace marche précautionneusement, en prenant soin de ne pas s'éloigner du sentier pour ne pas trébucher. Après avoir contourné l'atelier, elle aperçoit la maison plongée dans l'obscurité et se laisse aller à imaginer qu'elle n'est pas seule, que quelqu'un l'attend à l'intérieur, qu'elle n'a qu'à ouvrir la porte et allumer les lumières pour que la vie reprenne son cours. Elle entrera dans une cuisine qui embaume les oignons en train de frire dans la poêle. Il y aura de la musique à la radio, une bouteille de vin ouverte sur la table. Elle ouvre la porte, allume les lumières. Il règne un silence de plomb. Grace verrouille derrière elle et rejoint la cuisine où elle trouve la boîte à chaussures pleine de courriers posée sur la table. La lettre du dessus de la pile attire son attention. Celle-là, elle ne la lui a pas montrée. Elle en est certaine. Il y en avait une autre par-dessus. Cette lettre, elle la connaît. Elle l'exècre. Cette lettre représente les pires travers de Vanessa, sa prétention, sa méchanceté. Grace ne veut pas la regarder, mais elle n'en a pas besoin. Elle l'a tant lu et relu que ses passages les plus cruels sont gravés au scalpel sur les murs de son cœur. Ma chère Fran, merci beaucoup de m'avoir envoyé ce livre de nouvelles de Ted Chiang. Je l'adore. Il dégage une étrange mélancolie qui trouve un écho particulier en moi, surtout en ce moment. Je suis perdue, immobile, incapable de travailler. Mes mouvements n'ont plus aucun but. Je m'efforce de me vider l'esprit afin de laisser mes mains, la peinture ou l'argile me guider. Mais je ne parviens jamais à chasser mes pensées et trop vite, je me retrouve figée, à la fois piégée et à la dérive. Grace est omniprésente. Elle se montre soucieuse et attentionnée. Quand elle est dans la pièce, je n'arrive plus à respirer. Sa prévenance est étouffante. Elle ne se rend pas compte de l'ampleur de ma peine. Certaines émotions trop intenses lui échappent totalement. Elle ignore ce que c'est que d'éprouver un amour aussi charnel que celui qui m'unissait à Julian. Je sais que ce n'est pas sa faute, qu'elle est faite ainsi, et pourtant son incapacité à comprendre me met en rage. Je l'aime et j'ai pitié d'elle. Si seulement elle pouvait être moins collante. Depuis quelque temps, j'imagine qu'elle n'est plus là. J'imagine la liberté et l'angoisse que m'apporterait une vie sans elle. Je sais que tu m'en veux de ne pas être venue à ton exposition à Bristol. Je sais que depuis 2 ans, je ne suis pas une très bonne amie. Je suis encore plus égocentrique que d'habitude. Pardonne-moi, je t'en prie. Tu me manques tellement. Est-ce que je peux venir te voir? Si je pouvais m'échapper quelque temps de cet endroit, Je crois que je commencerai à redevenir moi-même. Je t'embrasse, Vanessa. Frances n'a pas répondu, et Vanessa en a été profondément blessée. Un peu plus d'un an plus tard, elles ont eu l'occasion de discuter, et Frances a expliqué à Vanessa qu'elle n'avait jamais reçu sa lettre. Malgré cela, leur amitié ne s'en est jamais tout à fait remise. Les larmes troublent la vision de Grace, et elle cligne des paupières. Même après toutes ces années, ces phrases la font encore souffrir. Non, les émotions trop intenses ne lui échappent pas. C'est même tout le contraire. Souvent, ces émotions sont trop intenses, disproportionnées. Et parfois, ses actes s'en ressentent. Frances n'a pas menti. Elle n'a jamais reçu ce courrier. Au cours des semaines et des mois qui ont suivi la disparition de Julian, Grace avait pris l'habitude de surveiller comme elle le pouvait l'état d'esprit de Vanessa. De temps en temps, elle lisait la correspondance que son amie lui confiait pour qu'elle la dépose à la poste. Heurtée par les mots de Vanessa, elle a choisi de faire preuve de cruauté, elle aussi. Elle a conservé la lettre et a laissé Vanessa croire que sa plus vieille amie l'avait abandonnée. En amour comme à la guerre, tous les coups sont permis. L'amitié est une forme d'amour, non ? Et parfois une forme de guerre aussi.